I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Depuis octobre 2017, sur la chaîne YouTube Copy Comic, un anonyme publie des vidéos mettant en évidence le vol de blagues de la part de nombreux humoristes. Thomas Sisley, Rémi Gaillard ou encore Gad Elmaleh. Extrait d'une vidéo publiée sur la chaîne Copy Comic en janvier 2019.
Non mais, non, je n'entends que des bouts. Ça fait croc, 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 on comprend rien. Croc, croc, c'est quoi, c'est un forfait voyelle ou quoi?
Et sérieux, les nouvelles chanteuses, elles chantent comme ça, vous avez remarqué qu'elles articulent plus? Elles ont un forfait voyelle.
Réponse de Gad Elmaleh en avril 2019 sur Europe 1.
On vous a reproché d'avoir piqué des vannes à des humoristes américains. Il y a des choses qu'on tournait sur Internet. Mais vous, comment vous voyez justement votre approche vis-à-vis de ça?
Moi, j'ai commencé ma carrière en 95 et j'ai commencé avec un sketch qui s'appelait La chèvre de Monsieur Seguin. C'est la première fois que j'ai fait rire, en fait. C'était l'idée de la parodie. Eh bien, la chef de Monsieur Seguin, je ne sais plus qui l'a écrite.
Alphonse Daudet.
Voilà.
Il ne vous a pas appelé, ça c'est dur pour vous dire.
C'était mon regard. C'était mon regard. Et un truc important, c'est que mon métier d'humoriste, il ne se résume pas à une liste de blagues. Ce que je propose, ce qu'on propose, c'est un regard, c'est une vision du monde. C'est... un univers.
D'accord, c'est pas une phrase ci et là qu'on peut réutiliser dans un autre contexte.
Ben, si c'était ça, il y aurait 4000 Jamel Debbouze, 2350 Florence Foresti et 300 000 Jerry Seinfeld, mais ça se résume pas à ça.
Vous voulez dire que c'est injuste, un procès d'intention, on vous parle de plagiat, c'est injuste après tant d'années de métier?
Je vais aller plus loin, c'est normal.
Est-ce que tu peux me raconter comment t'as impacté Copy Comic?
Ça m'a impacté dans le sens où c'était un moment assez étrange où on devait un petit peu réfléchir à un truc qui se passe dans notre milieu.
Rémi Boy, humoriste.
Qui est tellement un micro-milieu dans la société française, tu vois, personne connaît rien au stand-up. Et c'était un peu bizarre de voir le stand-up à la télé ou tu vois, sur Envoyé Spécial ou des trucs comme ça. Juste par ce biais-là, de genre, hey, y a des gens qui ont volé des vannes, et y a ce mec-là qui est un mec masqué, qui est en train de les débusquer, les mettre sur Internet. Et du coup, ça fait que par exemple, mes proches ou ma famille, ou des trucs comme ça, qu'ils ont entendu parler du stand-up à Paris et du métier que je fais, c'était que par ce biais-là. Et c'était super étrange de devoir non seulement se faire un avis sur Copy Comic, parce que la première, enfin, toute la question qu'on s'est posée, c'est genre, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, parce que c'est un peu chelou comme manière de faire, un truc comme ça, et il fallait vraiment qu'on décide, en tout cas dans mon cas, que je décide si j'étais plutôt pour ou contre, ou est-ce que je trouvais ça bien ou pas. Et en même temps, ça me faisait un peu mal de voir le stand-up mis au devant de la scène, et pas pour les bonnes raisons. Quoi. J'aurais bien aimé qu'on parle du stand-up comme c'est un nouveau truc cool qui se passe en France. Maintenant, ça y est, c'est arrivé ici. Il y a plein de comédiens, mais là, c'était genre, ils volent des vannes entre eux. Et pourquoi c'est important? Parce que en plus, les gens, ils étaient genre, c'est normal, tout le monde se vole des vannes. C'était un peu bizarre, ouais. Du coup, j'ai l'impression qu'on a juste passé 2 ans à expliquer ce que c'était stand-up aux gens. C'était un peu fatigant.
Au-delà des dénonciations, cette série de vidéos a mis sur l'avant de la scène cette question. Est-ce que le vol de blagues est une pratique courante? Tous les humoristes que j'ai interrogés ont leur avis.
Le vol de vannes que pointé du doigt Copy Comics, c'est quand même des cas de gens très très connus, tu vois. Du coup, moi j'ai jamais vraiment été exposé à ça, tu vois. Gad Elmaleh m'a pas piqué de vannes, hein. Enfin, je crois pas. Peut-être, on sait pas. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'à la fin d'un passage, je sors de scène et il y a un comédien qui vient de me voir et dit « Hey, Stevan, fais gaffe, il y a machin qui l'a fait aussi. T'appelles machin. » Je dis « Hey, je fais Stevan. » Ça m'est arrivé hier. Genre, hier, j'écrivais pour le passage du Barbès. Et j'écris un truc sur... c'est sur quoi? Sur « Vie ta vie ».« Vie chaque jour comme si c'était le dernier ». Ça me faisait marrer comme expression. Je disais « En vrai, ça serait le bordel si on faisait ça ». C'est pas une excellente vanne. Et du coup, je me suis rappelé que Paul de Chavannes faisait ça aussi. Et je lui envoyais un message. Du coup, « Hey, c'est quoi ta vanne ?» Parce que moi, je suis en train d'écrire ça. Et ça se règle méga vite, tu vois. Et je pense que 90% du temps, ça se règle en interne comme ça. Après, il y a encore des vols de vannes où il y a débat et les gens disent « Ah, mais j'ai trouvé avant, non, c'est moi qui ai trouvé avant », ou un truc comme ça, mais ça finit aussi par se régler. Et aussi, si, enfin, moi, je pars du principe que si on me prend une vanne et qu'on arrive à la faire mieux que moi, c'est que je l'ai pas assez bien écrite pour qu'elle me soit, tu vois, vraiment propre. Je pense qu'il y a certaines vannes que je fais qu'on peut pas me voler parce que je pense qu'il y a que moi qui peux les faire et je pense que ça, c'est vraiment la vanne ultime, tu vois. Donc, des fois, je me dis que ça m'est déjà arrivé une fois de perdre un passage, plus ou moins, parce qu'il y a un autre comédien qui le faisait. Lui, il me disait qu'il avait pas volé et qu'il avait eu la même idée. Moi, j'avais des doutes quand même. Et de me dire, bah, vas-y, je lâche l'affaire, il a qu'à la faire. Et puis, moi, je trouvais des trucs mieux.
Est-ce que toi, tu as déjà été témoin direct d'un vol de blagues?
Oui.
Tania Dutel, humoriste.
Mais ouais, c'est assez hallucinant de voir. Je sais qu'il y en a plein, on a toujours peur d'avoir des trucs qui... Moi, à chaque fois que je regarde un spectacle sur Netflix, je suis en panique en me disant « Est-ce qu'il va y avoir un truc comme moi ?» Et en fait, la plupart des gens, ils s'en foutent. Ils sont en mode « Bah non, c'est pas grave, personne le verra si j'ai volé une blague ou si y a un truc qui ressemble. » En fait, c'est bizarre, le stand-up, on parle de nous à la base. Donc, je me dis, pourquoi ils vont voler les... Enfin, on parle de nous ou de nos opinions. Donc, je trouve ça bizarre d'aller voler les idées des gens. Quand j'ai commencé à faire du stand-up, je voyais quand je regardais... Je me suis pas inspirée, hein, mais quand je regardais les spectacles d'Amy Schumer, à chaque fois, je me disais, putain, mais on a ça en commun, on a ça en commun, on a ça en commun. Et justement, j'avais peur que les gens croient que je l'ai pris. Donc, par exemple, il y a des gens, à chaque fois, je leur envoyais des vidéos de moi... Et par exemple, j'avais une vidéo, elle était sortie depuis un moment. Et après, Amy Schumer a sorti un special sur Netflix où il y avait une blague similaire et j'étais en panique. Après, j'ai dit non, mais en fait, c'est bon parce que la vidéo était déjà sortie. Donc, les gens vont savoir que j'ai pas du tout volé. Mais du coup, des fois, il y a des trucs où j'envoie à quelqu'un mon texte et une vidéo en me disant est-ce que tu trouves que ça ressemble? Parce que même des fois, je me fais des montagnes alors qu'en vrai, ça ressemble pas.
Alex Nguyen, professeur de stand-up et humoriste.
Est-ce que c'est une problématique dont tes élèves te parlent, le vol de blagues?
Oui, des fois les gens m'en parlent et ils n'ont pas encore écrit une seule blague. Donc bien sûr que c'est un réel problème, mais après, au niveau des gens qui démarrent, il n'y a pas d'enjeu financier à ce point, qu'ils ne peuvent pas s'arranger en individualité, quoi. Moi, je vais à mon cours, comme il y a 5 ans, il y a beaucoup d'élèves. Les blagues, je les ai toutes déjà entendues une fois. C'est que les gens, ils pensent qu'ils sortent la blague de l'année, mais toutes les blagues, elles ont déjà été faites.
Charles Soignon, productrice et humoriste.
Ouais, en fait, c'est pas des vols à proprement parler. Des fois, c'est juste quelqu'un qui répète une blague qu'il a entendue dans un show, stand-up. Tu vois que c'est pas forcément un vol. En tout cas, tu vas voir la personne avant de l'accuser de voleur. Tu lui dis, est-ce que t'es au courant que ça appartient à Dave Chappelle? Après la personne te fait ah ouais sérieux, oh merde ouais, j'ai dû l'entendre effectivement, ou alors t'as le ah bon bah il faut que je vérifie, quelqu'un qui dit il faut que je vérifie, t'es là on va te suivre à la trace toi parce qu'à mon avis, ou alors t'as la personne qui fait ouais je m'en bats les couilles.
T'en as déjà croisé?
Mais oui oui. Je vais pas dire de nom, je pense qu'on le connaît. Il s'en bat les couilles, il nous a dit d'aller tous nous faire en il a dit ça avec une perruque, donc vraiment c'est des soucis du stand-up. C'est quelque chose, la triche, qui est quelque chose qui existe dans tous les domaines.
Cette référence, qui vous semble peut-être énigmatique, est très probablement liée à cet extrait de vidéo posté en février 2019 par Gad Elmaleh, alors grimé en son personnage chouchou.
On va aller cash sur table. Le plagiat. Alors, s'il y a une personne au monde qui doit s'insurger, se réclamer qu'on a plagié, c'est chouchou. Il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, ma manière de réfléchir, de m'exercer, de me mouvoir. Il est zineux. Quelque part, eux aussi, leur cœur, ils saignent. Alors ce soir, on va leur dire qu'ils aillent tous se faire bien cajoler.
Et t'as déjà volé une blague, toi, à tes débuts ?
Ouais, j'ai déjà volé une blague à mes débuts. C'est la première fois que je le dis avec plaisir, en plus. Ça a duré 2 semaines, je me suis senti tellement mal de l'avoir volé que j'ai arrêté de la faire. J'étais, ah, c'est pas bien et tout. Mais c'est pas vraiment... En fait, vraiment, non. C'est une situation drôle que j'ai vue dans How I Met Your Mother et qui m'a fait vraiment beaucoup rire, qui est un truc sur le shopping. Où
en plus, tout le monde regarde How I Met Your Mother.
Ouais, mais comme tout le monde... Enfin, il y a plein de blagues qui ont été volées dans le copy comic là, qu'on voit. Et tu fais, bah oui, c'est vrai, je l'avais déjà vue. Enfin, moi, qui suis furieux de stand-up, et je l'ai pas reconnue. Parce qu'elle était mal vendue ou qu'elle était déformée parce qu'on est des bons tricheurs. Alors moi, c'était pas un truc de bon. J'ai même pas pensé au vol. J'étais en mode, ah, je m'inspire de. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça marchait fort et que la situation marchait fort et que c'est pas moi qui l'avais trouvé cette situation. Donc j'étais là, non, je peux pas garder cette blague, tu vois. La situation comique m'appartient pas. Et ne serait-ce que ça, j'étais là. Alors que c'est pas du tout dans le même contexte. C'est, tu vois, mais j'étais là, nah, c'est du vol. Hein. Et donc j'ai arrêté. Mais c'était la seule. Et après, j'ai appris. Il n'y a pas longtemps, ça m'a fait mal, parce que j'ai regardé une vieille vidéo YouTube de potes à moi qui font un truc de Chéri tu perds, donc Pierre Cross et Eric. Et ils font une vanne dans le Chéri tu perds. Ils ont une liste de vannes qu'ils ont trouvées sur Internet, et dont une vanne que j'ai faite, mais qu'une pote m'avait passée à l'époque. Et je fais. Et cette personne avait été accusée plein de fois de faire du copy-comic, quoi, de voler. Et 8 ans après, je me rends compte qu'effectivement, elle m'a même donné à moi une vanne volée. Moi, j'étais là, oh, moi, ça va, on m'a jamais donné de vanne volée. Et en fait, si.
C'est-à-dire donner une vanne une...
Bah, c'est-à-dire qu'elle a trouvé une vanne ailleurs et a fait genre, attends, j'ai une bonne vanne pour toi. T'es là, mais vraiment, si vous voulez voler, donnez pas aux autres en plus, bande de bâtards.
T'as d'autres déclarations à faire sur le vol?
Non, c'est bon, j'ai tout dit. J'ai tout dit, mais franchement, elle me fait rire cette histoire, parce que c'était, ça faisait un an que je faisais des blagues, et que je trouve ça mignon. C'est comme quand j'avais 6 ans et que j'ai volé une balle rebondissante. À peine on est sorti du magasin, j'ai dit à ma mère, j'ai volé une balle. Tu vois, c'est vraiment mon caractère. C'est,
tu l'as rendue ou pas?
Je l'ai rendue, bah ouais. Je me suis pris une gifle et on l'a rendue.
Au-delà de ces histoires, j'ai voulu savoir si des affaires similaires étaient passibles d'une poursuite judiciaire, et surtout, s'il est vraiment possible de protéger une blague. Pour ce faire, j'ai interviewé Clara Benyamin, avocate spécialisée en propriété intellectuelle, également à l'origine du podcast « Besoin de rien, envie de droit ». On dit qu'une idée est de libre parcours, comment on peut prouver qu'on est à l'origine d'une blague ?
Alors, le principe, c'est que donc cette phrase qui dit « les idées sont de libre parcours », c'est une phrase qui signifie que une simple idée qui n'a pas été mise en forme, qui n'a pas été mise en œuvre et mise en forme, qui n'a pas été réalisée, que cette simple idée n'est pas protégeable. Par exemple, c'est une blague sur un mec qui court et qui tombe et qui se fait mal, c'est pas protégeable, ok ? Ce qui peut être protégeable, ça va être le fait d'avoir fait une représentation, d'être monté sur scène, ou bien d'avoir fait un tweet ou quelque chose, donc d'avoir mis en forme cette blague-là. Et il y a quand même une petite subtilité là-dedans, c'est qu'on considère qu'une création est protégeable à partir du moment où elle est originale. L'originalité, c'est une notion un peu tarte à la crème, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur. En gros, on peut quand même se dire qu'il faut que ton truc soit pas complètement, complètement, complètement banal et déjà vu.
Est-ce qu'en théorie, il serait possible pour un humoriste d'attaquer un autre pour vol de blague ? Et est-ce que tu penses qu'il serait pris au sérieux ?
En théorie, oui. C'est-à-dire que c'est ce qu'on se dit un peu depuis tout à l'heure. À partir du moment où tu arrives à prouver que ta blague, elle est originale, enfin, tu démontres que ta blague, elle est originale. Tu arrives à prouver que c'est bien la tienne, que c'est bien toi qui l'as dit, que c'était à tel moment. Donc, tu vois, ça remonte à avant que la blague du potentiel copieur soit prononcé, parce qu'il faut aussi prouver ce qu'on appelle l'antériorité, donc que tu étais là avant. À partir du moment où tu arrives à réunir ces éléments, pourquoi pas en vrai ? Il n'y a pas de... Moi, ça ne me choquerait pas, moi, je prendrais le dossier en plus, parce qu'il y a une création intellectuelle, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc à partir du moment où tu arrives à rassembler les éléments qu'on a déjà mentionnés, oui, pour moi, tu peux attaquer quelqu'un pour vol de blague, et pour moi, oui, ça pourrait être pris au sérieux.
Même si c'est un humoriste ?
même si c'est un humoriste. Et j'insiste sur le fait qu'il faut que ce soit quelque chose d'un petit peu élaboré et quelque chose qu'on n'a pas déjà entendu 200 fois. Par exemple, je pense pas que tu puisses poursuivre quelqu'un parce qu'il a fait une blague de Toto et que toi aussi, enfin, il a fait une blague sur Toto qui va à l'école et toi aussi, t'avais fait une blague sur Toto qui va à l'école. Tu vois, il faut démontrer quand même qu'il y a une création intellectuelle.
Est-ce qu'un cas de vol de blague a déjà été jugé?
Alors, figure-toi que du coup, j'ai dû faire cette recherche, merci. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de vol de blague qui a été jugé et condamné en France. De ce que j'ai pu trouver, il n'y a même pas de cas qui a été soumis à l'appréciation des tribunaux. La seule trace que j'ai trouvée, c'est Twitter qui a accepté de supprimer des tweets qui étaient des blagues en disant « on accepte de supprimer ces tweets sur le fondement du droit d'auteur ».
Ok, bah, merci beaucoup.
Et si t'as un mot de la fin sur cette histoire de vol de blagues?
Bah c'est pas bien. C'est pas bien les copains là. Faut arrêter de voler, faut avoir vos propres idées, faut travailler. Et si vous êtes pas capable, et bah arrêtez ou demandez à quelqu'un d'écrire pour vous. Mais on arrête de voler les gens là, c'est pas possible.
Bande de rigolos, c'est une série signée Anouk Perry et Louise Petrouchka pour Programme B, qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Pour aller encore plus loin sur le sujet de notre rapport à l'humour, je vous invite par ailleurs à écouter le dernier épisode en date de Parler comme jamais de ma camarade Laëlia Véron, dans laquelle elle reçoit Guillaume Meurice pour évoquer la perception de l'humour comme étant une sous-langue. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battled it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.